bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM. Aujourd'hui, le bouche à oreille reçoit l'association La Compagnie de la Fortune, Théâtre en Soi, représentée par Hélène Lorca. Bonjour Hélène.
Bonjour. Alors il manque mon acolyte, hein, Laurent Témence, parce que c'est vraiment nous deux, les cofondateurs de La Compagnie de la Fortune.
Eh bien on salue Laurence. Laurent. Pourquoi je dis Laurence?
Non, il n'a pas changé de sexe. Encore Laurent.
Je vois son côté féminin, c'est pour
non,
ça.
Non, mais voilà. C'est parce qu'on a souvent Laurence Breck avec nous.
C'est bon, pour ça, écoutez, ça commence bien. Donc, je suis accompagné pour m'aider dans cette émission d'André. Bonjour André.
Salut.
André, toi qui es spécialiste de Jean-Baptiste Poquelin ou de Poquelin?
Les deux.
Les deux.
Les deux, oui, je suis conducteur de pelle.
Voilà, parce qu'un petit clin d'œil à Poquelin aussi, qui est dans notre région, est très important. Hein, voilà. Et de Luc à la technique, notre marsouin.
Salut le marsouin.
Salut. Bonjour. Luc, ça va? Donc Luc ne parle pas, hein, donc il est muet. Mais ouais. C'est un fan de théâtre aussi. Hein, voilà. Donc ce soir, Hélène, on va parler de théâtre, on va parler de La Compagnie de la Fortune, et on va aussi parler d'un spectacle qui arrive très rapidement, le 29 et le 30 janvier.
Oui.
Qu'on va dévoiler un petit peu plus, puisqu'on va parler de Molière.
Exactement, les 400 ans de la naissance de Molière qui m'ont donné envie, pendant les longs confinements, de compulser des tas de données et pour écrire un spectacle qui s'appelle La Madeleine de Molière.
Alors, on va préciser quand même aux auditeurs que s'ils veulent poser des questions à l'association La Compagnie de la Fortune, c'est possible sur le Facebook de RVMFM, au 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Voilà, on a posé le décor,
je crois
dire
oui.
Ça.
Ah, oui.
Et on va commencer l'émission, Hélène, en voulant savoir qui est Hélène Lorca déjà, pour commencer.
Oui. Eh ben, écoute, avant tout, on va dire une comédienne qui aime tellement le théâtre qu'elle en a fait son métier. Voilà. C'est quelque chose qui m'a pris quand j'avais 15 ans, qui m'a plus lâchée. Et puis j'ai fait comme tous les provinciaux, je suis montée à la capitale. Et puis je me suis formée. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir mes premiers contrats et j'ai commencé à jouer. Je suis rentrée en compagnie. Alors tu sais, c'est rigolo parce que quand on est comédien, on se dit toujours compagnie, pas compagnie. Alors au début, j'avais dit oh. Et puis le premier contrat que j'ai eu, c'est pour rentrer dans une compagnie. Et alors un travail de compagnie, c'est vraiment apprendre à tout faire. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire la lumière, il faut être capable de faire la régie, il faut être capable de donner des cours, il faut être capable de faire de la programmation, d'écrire, de jouer. On apprend un jour à faire de la sistana et puis un peu plus tard, on apprend à faire de la mise en scène. Voilà, c'est vraiment ça le travail de compagnie. Et quand je pense à Molière, forcément, je me dis en fait, toutes les compagnies, voilà.
C'était le travail de Molière.
C'était le travail de Molière. Mmh. Et c'est un travail passionnant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est vraiment tous complètement essentiels à un spectacle. Et puis après, quand on crée un spectacle, arrivent les décorateurs, arrivent les personnes qui s'occupent des costumes, qui s'occupent... Bon, tout ça, c'est passionnant parce qu'on se dit au départ, on a une idée en tête. Et puis on regarde si au niveau de la programmation de la compagnie, ça peut rentrer. On regarde quels seront les comédiens qui nous accompagneront. Et puis ça se fabrique. Et puis un jour, c'est là. Et alors ça, c'est une magie qui, moi, me fascine toujours autant.
Et tu as connu comment, Laurent, alors? Comment vous êtes rencontrés?
Je l'ai engagé, et puis je suis tombée amoureuse, et puis je l'ai gardé. Parce que c'est aussi ça, le théâtre, c'est l'amour, c'est la vie.
Ouais.
Oui, on s'est rencontrés dans une ancienne compagnie en Seine-et-Marne, où on travaillait, et puis voilà. Et puis après, moi, j'ai fait un petit passage par la télé à France 3, ce qui m'a permis de découvrir le Valois. C'était dans les années 2002.
Ah oui, tu as connu comme ça le Valois grâce
à la Rue Verlaire, qui est un magazine des Pays de France, qui m'a amenée dans le Valois. C'était la cinquième émission. Je suis tombée amoureuse du Valois, qui me rappelait beaucoup ma Bourgogne, la Bourgogne de mon enfance, avec ce côté vallonné, boisé. Et j'adorais ça. Donc j'y ai retrouvé des choses qui étaient essentielles pour moi, parce que j'ai besoin des arbres, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de ces balades où tu sens l'humus, l'humidité, tout ça, les arbres. Et je suis restée. Voilà, avec Laurent, on a créé une compagnie, on a acheté une maison, et puis on est toujours là.
Voilà,
Donc, Yves Valois nous a accueillis.
À Céry-Magnoval, on va citer le petit village, oui, oui, parce que voilà, ça fait...
dans ce beau Valois.
Fait parler de notre région, c'est important.
Qui est devenu vraiment... alors, ce qui est très drôle, la vie est formidable. Bah, déjà, là, on se rencontre avec André et on se rend oui, compte qu'on connaît Jean Dasté, tous les oui, deux, qui a été directeur de la Comédie de Saint-Étienne. Moi, mon père a travaillé avec les gens de la Comédie de Saint-Étienne à un moment. Ouais. Je suis ardéchoise par lui et on se parlait de Gabi Monet, qui est ardéchois. Enfin, voilà. C'est quand même incroyable.
Et d'Entraigues.
Et d'Entraigues, alors qu'on ne se connaissait pas il y a encore une heure. Et puis là, on se rend compte qu'on va bientôt aller les bouffer au village d'Entraigues sur la place. Hein, voilà, on se retrouve cet été.
Très bien, oui, oui, je suis d'accord.
Et puis voilà, et c'est ça la vie, c'est des rebondissements, des rencontres, et on se rend compte finalement que c'est tout petit.
Oui.
On finit toujours par connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on connaît, et puis ça y est, c'est parti. Et donc, j'ai perdu le fil. C'était quoi le fil? Le fil de l'histoire?
Non, bah écoute, le fil, il est bien là, puisqu'on parle de théâtre, donc on est bien dedans. Mmh. Alors pourquoi la Compagnie de la Fortune? Théâtre en soi,
parce que la vie s'est fait de rebondissements. Et donc cette fameuse émission qui m'a emmenée à connaître le Valois, un jour s'est arrêtée. Et puis quand ça s'arrête, et ben, faut repartir à zéro. Alors vraiment, je crois que je dirais toujours merci. Alors tu vois, pour moi, c'est les gens de ce village de Céry-Magnoval qui nous ont ouvert la porte, les gens de la municipalité de Crépy que j'étais allée voir. C'était Dominique Vivant à l'époque qui travaillait à la culture. Oui. Dominique qui a été un amour, qui m'a fait rencontrer après Christelle Durussel, deuxième amour, avec l'Office du tourisme. Et on a comme ça tissé des liens d'année en année. Et on a réalisé beaucoup de rêves parce que des gens comme Jean-Pierre Agnette qui travaillait avec les ADEX... qui à l'époque était encore avec nous. Je pense vraiment très fort à lui, voilà, et à sa femme, Carole. Et un jour, il est venu me voir et l'Office du tourisme nous avait demandé de jouer une farce médiévale pour les 35 clochers. Et il m'a dit « Ah, mais avec Laurent, vous êtes des raconteurs d'histoire. Tu voudrais pas m'écrire quelque chose sur la poésie ?» Oh, je lui ai dit « Mais Jean-Pierre, j'ai jamais fait ça. » Et donc, il m'a donné le recueil de Jean-Pierre Smet, qui est un recueil sur la poésie, sur tous les poètes qui, du XIIe au XXe siècle, en sont rattachés à l'Oise. Mmh. Et donc, voilà, j'ai imaginé une mise en scène à partir de ce recueil. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, la poésie est restée quelque chose qu'on a un petit peu dans notre mal. Et on nous demande souvent de soit d'aller dans les écoles, soit de remonter des spectacles sur la poésie. Bon, voilà, c'était une rencontre qui s'est faite grâce à l'Office du tourisme. Et puis, Dominique Vivant, pareil, me dit, bon, cette année, c'est délivrez-vous, le thème, c'est le fil. Elle me dit, vous pourriez peut-être monter quelque chose sur le fil à la patte. Alors, on avait prévu toutes les deux de faire une petite lecture de 20 minutes, puis en fait, j'ai fait un spectacle de 50 minutes. Et il y avait Lionel Vonck, donc le directeur de la MJC, qui à l'époque était régisseur, et arrivait à la MJC en même temps que nous. Et il devait faire un noir. Le noir n'est pas arrivé parce qu'il était tellement parti avec nous dans l'histoire.
Qu'il en a oublié.
Et là, on attendait tous, et moi, j'ai dit « Noir !» Voilà. Donc, c'est pareil, le lien avec Lionel, c'est un lien qui s'est tissé depuis 15 ans, et continue à travailler ensemble, et à créer à la MJC, voilà.
Bon, c'est une grande famille,
Brigitte
Chappé
qui était là. Enfin, mais oui, le théâtre, c'est un, on est d'accord, André.
Mais, tout à fait, mais Dominique Vivant, c'était une conteuse, d'abord.
Mais oui, Dominique, incroyable, une énergie, et puis un énergie, amour de l'art, un amour de la vie.
Oui.
Et c'est ça, en fait, le théâtre. Le théâtre, c'est l'amour des rencontres, l'amour de la vie, et puis cette humanité qui est chevillée au corps de tous les artistes.
Alors, pourquoi la fortune?
Alors, pourquoi la fortune? Parce que, justement, donc, les revers de fortune font que, tout d'un coup, paf, patatrac, la rue Verlaire s'arrête, parce qu'un monsieur a décidé que toutes les petites émissions, comme La Montagne, comme Bonjour l'Ancêtre, comme la rue Verlaire, allaient sauter de France 3. Oh, sacrilège! Et puis je me retrouve, bah, plus rien, plus que mes yeux pour pleurer. Et quand même, cette compagnie, et puis cette nouvelle maison. Et je sais pas, moi j'adore les cartes du tarot de Marseille, avec la roue de la fortune, qui donc signifie en fait prendre sa vie en main pour arrêter d'être ballotté et pouvoir se dire, voilà, je vais à ma bonne fortune. Et ça me plaisait. Et puis je me disais, il y a quelque chose qui manque. Et j'avais commencé à faire un travail vraiment en énergie et voir comment ce grand tout, alors est-ce qu'on l'appelle Dieu, est-ce qu'on l'appelle la vie, est-ce qu'on l'appelle le cosmos, est-ce qu'on l'appelle l'énergie, comment est-ce qu'on l'appelle, préside en fait pour moi à la création de tout. Et je me disais, j'aimerais un jour faire un travail vraiment très personnel, un travail qui ramène à soi. Donc je me suis dit, ça va être les deux mouvements de la compagnie. Et Laurent m'a dit, ah, c'est beau. Alors on a dit, Compagnie de la Fortune, théâtre en soi. Et le logo de la compagnie, c'est un cercle, et on retrouve vraiment les couleurs des tarots de Marseille.
Donc c'est ta deuxième vie, ça, alors, un peu.
Mais j'en ai plein, mais on en a tous plein. On, ouais. on a tous, je ne sais pas combien de vies dans une vie, c'est ça qui est merveilleux.
Il faut, heureusement, qu'on a plusieurs vies, parce que ça serait monotone, sinon. Hein.
Bah oui.
Oui. Alors, du coup, la fortune, elle est arrivée ou pas, alors?
Écoute, elle est, tu sais, c'est ça, la bonne fortune. Il y a des fois des revers, il y a des fois des choses qui vont bien. Non, ce qui a été magnifique, c'est vraiment voilà, toutes ces rencontres qui ont fait que... Et ça continue. Les choses se sont déployées. Après, la communauté de communes est arrivée. On a commencé à travailler, à vraiment beaucoup tourner dans le Valois. Là, on est en train de rencontrer des gens à Saint-Pierre-en-Chastre. On a fait le festival Picardie Forever. Donc, on est en train de s'ouvrir des tas de choses sur Compiègne en ce moment. Enfin... Voilà, moi je dirais que la bonne fortune pour tout le monde, c'est quand on se dit, on va écouter ce qui se passe, et puis quand une idée arrive, on va essayer de la développer, puis on verra.
Comme quoi, un titre, ça compte beaucoup. Hein.
Oui.
Molière, lui, il avait choisi l'illustre théâtre. L'illustre théâtre.
Bon, il s'est un peu planté.
mais il s'y est retrouvé à Paris après.
Oui, exactement, ouais. C'était le grand retour. Parce qu'il y a des mouvements comme ça, c'est vraiment ça, la vie de Molière, c'est ce grand mouvement de l'illustre théâtre, d'une envie de créer quelque chose d'extraordinaire, et puis le ratage, et puis le départ dans le Languedoc. Et puis là, c'est 15 ans de tournée, alors avec des mécènes, parce qu'il faut trouver des protecteurs. Donc au départ, c'est Luc d'Épernon, puis Luc d'Épernon les lâche parce qu'il y a la Fronde. Alors c'est dangereux, la Fronde, c'est la Fronde des seigneurs qui se sont un petit peu révoltés contre Louis XIV, qui voulait mettre de plus en plus de pouvoir. Lui-même avait connu la première Fronde dans son enfance, donc il avait dû fuir Paris. Et ça, c'était resté dans sa mémoire comme quelque chose qui était impossible à revivre. Donc cette volonté de faire un État de plus en plus fort. D'ailleurs, c'est sous Louis XIV que cet État qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, les ministres, tout ça, c'est là que tout commence.
Alors, moi, je vais laisser la parole à André, parce que André maîtrise beaucoup mieux le théâtre que moi. Et on est, donc, pour les 400 ans de Molière, on va parler de cette pièce de théâtre que vous allez jouer dans peu de temps.
C'est l'année Molière.
C'est l'année Molière, oui.
C'est-à-dire qu'il y a des célébrations, on va dire, de Molière un peu partout pour le moment.
15 janvier 1622. Voilà, ça c'est l'essence.
Il faut dire aussi que ce n'est pas simplement l'année Molière, c'est l'année du théâtre, tout simplement, parce que j'ai l'impression que le théâtre existe en France depuis Molière. Quoi.
Considère comme l'inventeur du théâtre.
C'est-à-dire la Comédie française, par exemple, ce qui s'appelle le français, c'est.
C'est-à-dire que c'est un mélange de tout, parce que je pense que si Louis XIV n'était pas là, et si cet amour du théâtre n'avait pas été placé là par Richelieu, en fait, c'est tout ça. Hein, c'est Richelieu. Richelieu qui adore le théâtre, qui va. Il est avec ce jeune Louis XIV, qui est très jeune. Et puis après, il y aura Mazarin qui arrivera d'Italie avec cet amour de la musique. Et en fait, cet amour des arts, il le développe Louis XIV très très tôt. Oui. Et je pense que c'est parce que c'est un monarque qui aime les arts que du coup, tous ces grands artistes, Lully arrive d'Italie, Molière est là et on lui permet d'écrire. Et puis il va rencontrer Monsieur Frère du Roi en revenant justement du Languedoc après être passé à Lyon, après être passé à Rouen. Et puis tout ça, je ne sais pas, c'est, comme on dit, la sauce a pris.
Oui, voire même elle est allée jusqu'à créer des genres nouveaux. Le théâtre ballet, par exemple, c'est un truc qui n'existait pas.
Mais s'il n'y a pas Molière et Lully, je crois que peut-être que ça ne s'invente même pas. Je ne sais pas.
Oui, on parlait des rencontres tout à l'heure, mais c'était que des rencontres.
C'est ça, des rencontres magnifiques et avec, je crois, une liberté. Louis XIV, en fait, dans tout le début de sa vie, a permis une liberté de ton incroyable. Et il aimait danser, donc il était puis il était jeune, il était très jeune. Ça a été un monarque très très jeune. Et c'est après que ça a commencé à se gâter, parce que il y a eu la Fronde premièrement, et puis après il y a eu des dévots, il y a eu toute la compagnie du Saint-Sacrement qui a commencé à mettre de l'austérité, la reine-mère qui supportait pas que Louis XIV ait des maîtresses, enfin bon, tout ça a fait qu'on a commencé à beaucoup moins rigoler à la cour.
Oui.
Je dis pas de bêtises.
Non, c'est tout à fait ça.
Mais alors, Molière, c'est pas son vrai nom, alors?
Alors, il faudrait parler de la famille Poquelin, parce que Jean-Baptiste Poquelin, c'était son vrai nom. Mais il était le fils du tapissier du roi qui s'appelait Poquelin. Il était promis à une vie, je dirais, grassement bourgeoise s'il avait pris cette charge qu'avait son père. Et puis en fait, c'était vraiment un homme de théâtre.
Et alors, une des personnes clés, c'est le grand-père.
Oui, aussi, qui l'emmenait voir des farces.
Voilà, le grand-père qui adorait le théâtre. Oui. Et c'est comme ça que, en fait, Molière rencontre la famille Béjart.
Oui.
Parce que la famille Béjart emprunte de l'argent au grand-père de Molière.
Voilà.
Et parce que Madeleine Béjart, alors voilà, la Madeleine de Molière, pourquoi? Parce que Madeleine Béjart est quelqu'un qui a déjà une petite renommée sur Paris.
Oui.
et qui fait vivre toute sa famille. Et puis donc, le grand-père de Molière, voilà, qui fait que cette rencontre se fait, mais Molière croise pas tout de suite Madeleine, parce que Madeleine, elle, elle est déjà un peu partie de la maison. Elle a un amant,
oui.
Le comte de Modène. Elle a déjà... Elle joue beaucoup. Et puis, ben, Molière, lui, il est tout jeune quand il les croise. Hein. Il a 14, 15, 16 ans et il a envie, ça le passionne. Mais bon, le père Poquelin, il lui dit d'aller faire ses études chez les jésuites.
Oui, c'est ça. Va d'abord chez les jésuites, passe ton bac d'abord.
C'est ça.
On verra après.
C'est ça. Et puis, ben, c'est petit à petit qu'il va y revenir et c'est là qu'il crée l'illustre théâtre avec la famille
oui.
Béjart.
Oui, oui.
Donc, et donc, Béjart, c'est un nom qui est quand même connu dans le... Dans le monde du spectacle.
Oui.
Est-ce que c'est la même famille?
Au niveau des je ne crois pas que ce soit la même famille que du danseur, mais j'en sais rien, après tout.
Alors ça, je n'ai jamais su. Bon, si c'est le cas, je n'ai jamais su.
Moi non plus.
Ça, c'est, bon. Ah bah, je suis content de vous taquiner un petit peu là-dessus. Voilà, donc,
de même que les Poquelins, tous les Poquelins, oui. Quand on est à Crépy, ce n'est pas la même chose quand même.
Mais ouais. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est Madeleine Béjart qui, au départ, est connue. Et elle va finalement emmener avec elle et toute la famille, ils vont emmener avec eux Molière. Enfin, Jean-Baptiste Poquelin au départ. Mmh. Et c'est lui qui va tout apprendre. Mais après, c'est un génie. Mmh. Et son génie va se développer. Et puis à un moment, bah voilà, il va se mettre à écrire. Parce que c'est ce qu'on disait au départ, un genre nouveau. Mmh. Parce qu'au départ, c'était des canevas.
Oui.
Il y avait les lazzi, comme on dit dans le théâtre italien. Et en fait, on jouait Scaramouche, on jouait des personnages ou en couleur. Mais c'était des canevas. Alors on partait en impro.
Voilà.
Ah oui, en impro. Mmh.
Et puis petit à petit, alors il y avait le masque. Mmh. Et puis c'est Molière qui est un des premiers a dit mais on pourrait développer les canevas et en faire de vraies pièces. Alors bien sûr, on avait Corneille qui lui écrivait en vers et qui écrivait les tragédies. Mais
pas que. Il a aussi écrit une comédie. Qui était peu représenté, mais qui existe
laquelle,
quand même.
Laquelle
le titre m'échappe quand tu le dis. Je ne sais plus le titre, là.
Mais c'est vrai qu'il a, oui, il a aussi... Oui. Mais donc, voilà, et ce genre nouveau, c'est vraiment parce qu'au départ, c'était les farces. Alors, c'est surtout, il s'est nourri des farces.
Oui, oui.
C'est-à-dire les Italiens qu'il admirait.
La commedia dell'arte, voilà. C'est la référence.
Qui est la référence, et puis les farces. Mmh. Et donc, il y avait vraiment cette envie. Et puis, quand ils sont partis avec la troupe du duc d'Épernon dans le Languedoc, bah, ils jouaient sur les marchés, ils jouaient... Mmh. Voilà, il fallait plaire au peuple, et le peuple avait besoin de rire. Voilà, et puis après, il y avait toute la noblesse qu'on a commencé à aller chercher pour avoir des protecteurs, pour avoir du mécénat.
Oui.
Ça n'a pas beaucoup changé, 400 ans plus tard.
Ah, oui.
Les comédiens sont toujours en recherche de subventions et de mécènes.
Bah, oui. Donc ils faisaient tout alors. Ils écrivaient, ils jouaient. Comme tu disais, il faut être un peu polyvalent quoi,
pour créer
une compagnie.
C'est,
ouais.
c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un homme de troupe, ça fait tout.
Oui.
Et puis l'avantage, c'est que bon, comme voilà, son père avait de riches tissus, et c'était quand même vraiment une bourgeoisie, puisqu'il travaillait pour le roi, et donc Molière a pu amener vraiment un niveau financier, social élevé. Mmh. Et donc il a amené des tissus, ils ont eu des décors magnifiques et c'est pour ça qu'ils ont pu être aidés par le duc d'Épernon, puis par le duc de Conti, le prince Conti. Mmh. Parce qu'il y avait un éclat, il y avait quelque chose, c'était pas des saltimbanques. Depuis le début, ça a été vraiment une troupe construite avec des salaires, il y avait des registres qui étaient tenus, c'était très très structuré.
Oui. Et justement, Molière, est-ce que c'est une inspiration pour toi, Hélène? Est-ce que
Molière est une inspiration? Je crois que c'est une inspiration pour tous les comédiens.
Pour tous les comédiens.
Ouais,
tout le monde se...
Ah bah.
Mais oui.
C'est important de pouvoir jouer au moins une pièce de Molière, c'est ça
J'oserais dire que c'est gouléant. C'est-à-dire que c'est tellement bien écrit. On sent, quand on joue du Molière, on sent que c'est écrit par un comédien.
Ah oui.
Et donc, du coup, c'est tellement bien mené, il y a un tel rythme. Et puis, c'est tellement un esprit libre. Voilà, c'est drôle.
Oui.
C'est incroyable.
Il s'affranchit de tous les codes, tout le temps,
ouais.
En permanence. Quoi.
Tu sais,
en France, nous, on a la chance d'avoir Molière qui a fait ça. Mm. Les Anglais, eux, ils ont Shakespeare.
C'est ça.
Mais c'est un peu... C'est des gens qui ont amené... Je dirais un grouillement de vie.
Oui, oui.
C'est pas, je dirais, On pourrait parler, par exemple, de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Tu vois, il y avait des grouillements de vie comme ça. Ben oui, il y a eu des rencontres, il y a eu des choses comme ça.
Et tu sais, un jour, j'ai rencontré Maria Pacôme. J'ai eu cette chance. C'était au Festival de Chant-Rousse. Et on parle toutes les deux. Et elle comprend que j'étais en train de travailler une pièce de Molière. Et elle me regarde, elle me dit « Oh, vous jouez du Molière
oui. !»
Et alors moi, j'étais devant Maria Pacôme, alors j'adore Maria Pacôme. Et tout d'un coup, je me dis « Non, attends, Hélène, tu rêves. » Maria Pacôme est en train d'envier ma vie, parce que moi, je joue du Molière. Ouais. Et elle me dit « On m'a jamais permis de jouer des classiques, parce qu'on ne m'a jamais fait confiance pour jouer des classiques. »
Ah oui.
Et là, tu te dis « Ah bah flûte alors
!» Oui, c'est vrai.
Non mais, comme quoi, une carrière, tu vois
ouais.
C'est fou
ouais.
C'est fou. Mais oui, jouer du Molière, jouer Shakespeare, jouer ses grands textes, c'est merveilleux.
Ouais.
C'est des langues à part entière.
Oui.
Et elles sont tellement musicales en même temps. Mm-hmm. C'est magnifique.
Et pourquoi vous avez choisi la Madeleine de Molière ? Alors, c'est un choix réfléchi c'est...
Alors, si tu veux, moi, au cours de ma carrière, j'ai joué à peu près, je ne sais pas, 6 pièces de Molière.
D'accord.
J'ai commencé par L'Avare, j'ai joué Le Formidable Scapin, Le Bourgeois Gentilhomme. Bon, j'adore. Et je me disais, les 400 ans arrivant, le confinement étant là, comme on ne pouvait pas jouer, comme on ne pouvait pas... Je me disais, oh, j'aimerais tellement écrire une pièce qui raconte l'histoire dans l'histoire. Parce que peu de gens, finalement, connaissent l'histoire de Molière. Et surtout, peu de gens ont accès au fait que chaque pièce a été écrite à un moment très précis et que ça correspond à chaque fois à quelque chose qui se passe historiquement. Et donc, je me disais, mais ça serait merveilleux pour les gens de découvrir ça. Et puis, en même temps, de découvrir ce que c'est qu'une troupe. Parce que tu vois, par exemple, ici, plein de gens nous suivent depuis 15 ans. Ah ben, on est les comédiens du Valois. Et moi, j'adore ça. On est leur troupe, quelque part. Et en fait, ils nous connaissent. Et c'est parce qu'ils nous connaissent et qu'il y a une espèce de joie à se retrouver à chaque fois. Mais ils ne savent pas forcément ce que c'est que de répéter, ce que c'est que de tout d'un coup de se dire « Oh, moi, je rêve de jouer tel rôle. Bon, bah, allez, on le monte. » Bon, parce que ça, c'est aussi ça, par exemple, j'avais toujours rêvé quand j'étais en formation de jouer La Mégère apprivoisée.
Ouais.
Bon, bah, il y a 5 ans, on a monté La Mégère apprivoisée.
Ouais.
Et je voulais jouer du Shakespeare un jour. Bon, bah, j'ai joué du Shakespeare. Voilà, c'est comme ça. Et puis là, je me dis, montrer tous les liens. Parce que Molière, c'est aussi un homme fidèle, très très fidèle. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de gens dans la troupe. Il y a Marie Hervé, qui est la mère de Madeleine, qui garde les enfants parce que ça accouche. On trimballe les enfants partout. Il y a l'intendance à gérer. Et puis en même temps, voilà, il y a Armande, qui est la fille de Madeleine Béjart, qui est la fille légitime qu'elle a eue avec le comte de Modène. Donc il ne faut pas que ça se sache trop. En même temps, Armande, elle part dans le Languedoc, elle a 5 ans. Et puis elle revient, elle a 20 ans. Donc elle a vu la scène, elle en a mangé depuis qu'elle est enfant. Molière, elle le connaît depuis toujours. Et moi, je dis toujours, Molière, c'est le Johnny Hallyday d'Armande. Tu sais ? Non mais c'est vrai, Laetitia, elle rêvait de son Johnny depuis qu'elle était petite. Bon, Armande, elle a rêvé de son Molière depuis qu'elle était petite. Voilà, Catherine Debris, qui appartenait à la troupe du duc d'Épernon avec Dufresne. Donc, ils les rejoignent quand ils quittent l'illustre théâtre pour partir avec eux dans le Languedoc. Il y a Gros René qui est là. Et puis, ces gens-là, il y a un peu la chopine pour Gros René, parce que, on aime bien boire, parce qu'on ne boit pas d'eau à l'époque. C'est pas bon, l'eau. Non mais c'est vrai, je veux dire, l'eau, elle croupit. On n'ouvre pas le robinet à l'époque. Donc on boit du vin, parce que le vin, au moins, on sait d'où il vient, des vignes. Et puis on rit, on aime la vie, on aime la bonne chère. Donc c'est des tournées où les liens se tissent et ça fait une vraie, vraie, vraie famille. Ils n'ont pas le même âge. Il y a les jeunes qui arrivent tout d'un coup. Bon, il y a la Grange qui débarque quand on arrive à Paris. On a rencontré Marquise à Lyon. Bon, et tout ça, j'avais envie de le raconter. Et puis, il y a un peu des petites jalousies, parce que Marquise, elle est là, alors Armande, elle est copine, et puis en même temps, elle voudrait bien quand même que Molière écrive des rôles pour elle. Du coup, Marquise n'est jamais au premier plan, ça lui plaît pas, donc elle se barre pour aller aux Têtes du Marais, puis elle revient, elle a emmené Gros René entre-temps. Donc, ça énerve Madeleine, Catherine qui me dit « Bon, t'inquiète pas, rassure-toi ». Voilà, et à un moment, je le dis, il y a une réplique comme ça que j'ai écrite, parce que c'est tellement vrai, je dis « L'équilibre d'une troupe est tellement précaire ».
Ah ben c'est toujours en mouvement, hein. C'est toujours quelque chose qui...
Et puis il y a des morts, parce que ben on vieillit, et puis quand on travaille pendant 20 ans ensemble, et puis il y a des départs. Donc voilà, j'avais envie qu'il y ait toute cette humanité qui se voit, et tout ça dans l'histoire, avec Louis XIV, avec la Fronde, avec l'interdiction du Tartuffe, avec les dévots qui commencent à prendre énormément de place, et on attaque Molière parce que Molière est trop libre, parce que Molière attaque les dévots, après on l'attaque parce qu'il attaque les médecins, après... Et il faut tout le temps qu'il prouve, il y a certaines pièces, nous on les connaît tellement, mais l'Avare ne s'est joué que 5 fois.
Ah oui.
Parce que ça n'a pas marché. Oui. On a interdit le Tartuffe. La reine-mère a interdit que ça se joue en public. Pour nous, ça paraît démentiel, mais la censure, c'était quelque chose d'énorme. Un peu comme ce qu'on a vécu là avec le confinement. Hein. Nous, on avait un spectacle, on était prêts à jouer, paf ! Interdiction.
Oui.
T'es là, c'est la générale, non, tu peux pas jouer. Alors, c'est pas nous, notre troupe, qui était touchée, c'était la France entière. Ouais. Mais bah, y a un arrêté qui est là. Bon, bah, tu peux pas, sinon t'es en taule. Hein. Mais c'était comme ça à leur époque.
Oui. Et en plus, à l'époque, on allait facilement en taule quand on était comédien.
Tout à fait.
C'était, bah, les comédiens avaient une mauvaise réputation, une mauvaise presse. Donc, ils n'avaient pas intérêt à...
À sortir des sentiers battus.
À sortir des clous. Hein, ouais. Sinon, ça n'allait pas.
Et c'est marrant, et même comme tu en parles là, on a l'impression qu'il est contemporain, qu'il est toujours là. Quoi.
Mais alors, il est toujours là.
Ouais, c'est ça qui est incroyable.
Mais il est toujours là, je veux dire.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais on ne connaît pas ou on ne connaît pas assez. En fait, je trouve qu'il n'y aura jamais assez de représentations de la vie de Molière et d'interprétations.
Mais quand je dis on ne connaît pas, c'est, tu vois, parce que moi je travaille beaucoup au lycée Jean Monnet avec les professeurs et c'est un partenariat que j'adore.
Oui.
Et les profs, je sais que là, ils vont venir nous voir la semaine prochaine, ils sont ravis parce qu'ils disent en fait, on n'a pas toujours le temps de transmettre la vie de l'homme.
Oui.
Ils connaissent les œuvres, les enfants, mais l'homme.
Oui.
Et moi, je trouve que c'est passionnant de connaître l'homme derrière l'œuvre.
Oui.
Parce qu'une œuvre se nourrit de l'humain.
Oui.
Alors, tu évoquais ces problèmes de sanitaire et tout ça. Si Molière était encore présent là, en ce moment, comment il vivrait ces choses-là?
Je pense qu'on aurait une belle satire sur la médecine et sur tout ce qui se passe.
Et sur les politiques aussi.
Tous les aspects
de la société, il passerait, à mon avis.
Il serait en train d'avoir le cerveau qui fume et il serait en train de nous pondre une sacrée comédie à venir.
Oui.
Parce que je pense que dans quelques temps, quand on aura fini d'être très touché par tout ça, parce que voilà, il y a eu des drames humains énormes, je pense qu'on en rira, mais peut-être jaune pour certains.
Ah ben on en rit jaune déjà, oui.
Oui, en ce moment on subit.
on subit en plus.
Quand on subira plus, tu sais, ça s'appelle la tragédie. J'avais un prof qui nous expliquait toujours, la tragédie c'est une marmite avec un couvercle. Tant que tu soulèves pas le couvercle, tout va bien. Mais quand tu soulèves le couvercle, t'es foutu, parce que ça déborde.
D'accord.
Et tu peux plus en mettre dans la marmite. C'est beau comme définition.
C'est une belle définition. Ouais. Alors, Hélène, tu nous as ramené quelques extraits de musique qui seront dans le spectacle.
Ah oui, alors, que je vous raconte quand même, parce que ce qui est merveilleux ici, dans ce Valois aussi, c'est qu'il y a plein de créateurs. Et alors, moi, j'adore quand je crée avec des gens locaux. Alors, j'avais rencontré Nina Couture. Voilà, qui est là.
C'est notre voisine.
À l'espace Rameau. Elle est couturière de métier et elle rêvait, Nina, je pense très fort à toi. Elle rêvait un jour de faire des costumes. Et dans un atelier, parce que moi je mène parfois des ateliers avec des élèves, elle avait fait une robe de la fée Clochette qui était absolument magnifique. Et je m'étais dit, oh, mais il y a quelqu'un qui sait faire ça ici. Alors là, pour ce Molière, on a un nombre de costumes, mais incalculable. Alors, des costumes, bien sûr, qui appartenaient déjà à la compagnie. Des costumes que j'ai récupérés, mais qui étaient 10 fois trop grands. Donc au début, je me suis dit, je vais demander à Nina si elle peut les remettre à notre taille. Elle m'a dit, oui, je peux. Et je lui dis, j'ai des costumes à créer. Tu crois que tu peux? Wouh, comme elle dit, Nina, tu crois que je vais être capable? Et je lui dis, oui, Nina, j'en suis sûre. Voilà. Et on a rêvé toutes les deux et on a travaillé vraiment des mois et des mois à faire les croquis, à choisir les tissus, à choisir l'ambiance de ce que je voulais. Et elle travaille mais divinement bien. Voilà, je suis très fière d'elle. Et je crois qu'elle a beaucoup, beaucoup d'attentes et d'émotions à se dire qu'elle va voir ses costumes sur scène.
Un membre périphérique de la troupe.
Exactement. Et puis, au niveau du décor aussi, c'est Valentin Rochu donc, qui travaille le bois merveilleusement bien, qui a fait le décor de la pièce, parce que je rêvais à une charrette pour vraiment symboliser le voyage, mais une charrette qui puisse se transformer pour devenir un lit ou pour devenir des tables. Il a fait pareil un travail magnifique, donc c'est un très très beau décor. Et puis, pour cette musique, alors j'avais parfois travaillé aussi avec des gens d'ici, et puis Corentin Flèche, avec qui j'avais travaillé sur deux autres spectacles, il est parti, il nous a quittés là dans l'Anjou, et puis il travaille à Versailles, alors bon. Et j'ai rencontré un jeune créateur qui s'appelle Clément Vincent, qui est bourré de talent lui aussi, et je lui ai demandé de me faire la création. Alors en s'inspirant de Lully, bien évidemment, en s'inspirant de cette musique grand siècle, et puis en même temps, c'est quelqu'un de très spirituel dans ce qu'il crée, donc je lui ai demandé de mélanger un petit peu tout ça. Et donc il y a vraiment, c'est une composition qui a été créée essentiellement pour la pièce.
Donc Hélène, on écoute quoi en ce moment? Alors raconte-nous.
Eh ben, c'est la première musique de la pièce. Donc c'est une invitation au voyage déjà. C'est vrai, ça donne envie.
C'est vrai.
Tu recontextualises?
Oui, ben, on va recontextualiser, tout à fait, André.
Ouais.
Après, t'as vu, il me tient...
Attention,
ça rigole pas ce soir.
Les reprises, la radio, c'est ça.
Exactement. Donc vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association La Compagnie de la Fortune. Théâtre en soi. Donc, Hélène Lorca. Alors, Hélène, il n'y a pas mieux comme ambassadrice pour parler de la Compagnie de la Fortune. Donc, si vous avez envie de réagir, le Facebook de RVMFM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. On transmettra à Hélène directement.
Mais bien sûr.
Et on rappelle qu'on est là en train de parler l'anniversaire de Molière, des 400 ans de Molière.
Oui, de l'année.
L'anniversaire, Molière. Pourquoi je dis les anniversaires, il n'y en a qu'un, oui. On prend par l'anniversaire de sa mort bientôt, peut-être, je ne sais pas. Il est mort à quel âge, en fin de compte, Molière ?
Il est mort en 72, ouais. Il avait 51, je crois. Ouais, il avait 4, alors attends, il avait 4 ans, alors, il avait 4 ans de moins de Madeleine. Madeleine est morte à 54 ans en 71, donc ouais. Ça veut dire qu'il avait 3 ans d'écart, donc 54 ans.
51.
Oh, je compte très bien, on voit que je suis littéraire. Hein. Ouais. On ne peut pas tout faire. Hein.
Non. Oui, il est mort assez jeune quand même. Oui,
oui. Oui.
Bon, à cette époque-là, 50 ans, c'était déjà peut-être.
C'est surtout qu'il y avait cette fluxion et puis qu'il oui. y avait. Alors qu'en plus, il voulait pas qu'on le soigne, hein, parce qu'il faut dire que les médecins. Alors, il avait vu sa mère mourir très jeune. Mmh. Il avait 9 ans, je crois, quand sa mère est morte, ou 11 ans, je sais plus. Et les médecins n'ont pas réussi à la soigner. Et ça, je pense même qu'ils l'ont fait mourir à force de saigner. Tu sais, c'était la grande mode des saignées à l'époque.
Ça donc, l'a marqué, ça.
On sait très bien maintenant qu'il faut surtout pas enlever le sang à quelqu'un qui est fragile. Si vous l'anémiez, vous le tuez, quoi. Mais maintenant, on le sait. À l'époque, on ne le savait pas. Mmh. Donc, il a toujours refusé tout lavement, tout clistère, toute saignée, rien. Il se soignait avec les plantes.
Oui, puis même dès ses premières farces, hein, dans la jalousie du barbouillé, il y a un fameux médecin qui délire complètement.
Puis après, dans le médecin, malgré lui, le médecin volant.
Exactement. Enfin,
non, mais il supportait pas les médecins, mais parce qu'il avait ce traumatisme d'avoir vu sa mère mourir, oui. Il n'avait pas réussi à le sauver. Et puis en même temps, en même temps, on est au balbutiement. Hein.
Oui. Oui,
c'est vrai que. Ouais. Mais il y avait une espèce, tu vois, de morgue des médecins qui étaient persuadés de tout savoir et puis qui te traitaient là comme si t'étais un corps. On t'a tué, oh, quelle importance. Je crois que c'est surtout ça, parce que c'était quand même vraiment quelqu'un de très, très, très respectueux de la nature humaine. Et c'est ça, je crois, qu'il insupportait.
Voilà. André, juste avant que tu reprennes la parole, tu peux nous nommer ton livre ? Qu'est-ce que tu as ramené là pour t'aider ce soir ?
C'est une Bible du théâtre qui a été écrite par un certain André de Guène. Qui donne à peu près tout depuis l'Antiquité jusqu'à, disons, dans les années 60, 70, à peu près.
Ah oui, il remonte plusieurs siècles.
Et c'est vraiment une merveille, parce qu'en plus de ça, ça n'a jamais été édité qu'avec son écriture et avec ses représentations. Il y a plein de gens que
histoire
tu connais.
Donc dans la prochaine édition, vous serez dedans, alors, la Compagnie de la Fortune.
Oui, je ne crois pas qu'on soit assez connu pour ça.
Alors, on se voit aussi pour un spectacle particulier quand même, hein, qui s'appelle La Madeleine de Molière, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, La Madeleine
Qui va se jouer le 29 et 30
le
janvier.
Le 29 janvier à 20h30 voilà. Et le 30 janvier à 16h. Et puis, voilà. On aura fait des scolaires toute la semaine d'avant. Ouais. Donc, on sera chou bouillant, comme on dit.
Ouais. Et ça se joue
à la MJC Culture de Crépy en Valois.
La MJC Culture de Crépy.
C'est ta deuxième maison, ça ?
Depuis 15 ans. j'ai mon fils, d'ailleurs, il a 11 ans, quand il dit... Bah, il dit c'est la deuxième maison, la MJC.
Ben oui.
Mais c'est bien, c'est la maison des jeunes et de la culture, alors c'est parfait.
C'est fait pour.
C'est
exactement.
Fait pour.
Ouais. Ouais, ouais. Et donc là, donc, ça tombe un week-end, ça tombe bien donc, pour aller voir du spectacle,
pour aller voir
Molière. Donc c'est une pièce que vous avez déjà jouée autre part avant ou
c'est non. Vraiment là Là, vous allez voir vraiment la création. C'est créé pour la MJC, grâce à la MJC, avec la MJC. Et la primeur est ici. Après, donc, je nous souhaite une tournée dans le Languedoc, pourquoi pas.
Oui. Donc une pièce écrite pendant le confinement.
Voilà, une pièce que j'ai écrite pendant le fameux confinement, le très long, là, le deuxième. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir l'esprit au clair. Moi, j'ai gardé mes études universitaires. Je mets tous mes bouquins sur mon lit. Mm-hmm. Je suis dans mon lit. Mm-hmm. Et puis je prends là, je pioche, je machin. Et j'ai le cerveau qui fume. Et j'écris. Et alors, je prenais les pièces, je prenais des extraits. Je me disais, alors attends, parce qu'en fait... On sait que Molière, quand il écrivait ses pièces, s'inspirait de ce qui se passait dans la vie de la troupe.
Oui.
Et d'ailleurs, de pièce en pièce, il y a des scènes entières qui sont les mêmes. Mmh. Et en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les œuvres de jeunesse. Et alors, c'est ce que je montre aussi dans la pièce. C'est-à-dire qu'on les connaît peu, les œuvres de jeunesse. Mais par exemple, le dépit amoureux. Mmh. Le dépit amoureux, il y a une scène incroyable entre Marinette et Gros René. Ce qui est fou, c'est qu'il a repris exactement cette scène-là dans Le Bourgeois Gentilhomme. Mmh. Mais avec les deux maîtres en plus. Et donc, ça veut dire que dès le départ, il avait comme ça des idées. Et puis, petit à petit, il les raffinait, il les étoffait. Et au fur et à mesure, des petites pièces en un acte sont devenues des pièces en trois, voire en cinq actes.
Cinq, oui.
Et ils rajoutaient des personnages. Donc nous, au plateau, on est huit. Donc alors voilà, pour tous les gens qui ont l'habitude de voir la Compagnie de la Fortune, on retrouve Alain Auperpin, on retrouve Carole Brosset, on retrouve Laurent Témence, on retrouve ma pomme, voilà, Bon, Laurence n'est pas avec nous sur ce spectacle-là parce qu'il fallait que je respecte les âges. Par contre, ben, j'avais besoin d'une Armande très jeune, donc j'ai fait une audition et j'ai rencontré une comédienne, Charlotte Hopfner, qui est une charmante, comme dit Lionel qui regardait tout à l'heure, tu es garce à souhait, voilà. C'est pas facile de jouer les garces.
Ah oui, c'est pas facile.
Voilà. Et mais il dit en même temps, c'est tellement ravissante que on sait bien que tu nous auras, mais ça fait rien. On ira quand même.
Oui, on va quand même préciser que tu étais en répétition juste avant de venir à l'antenne.
Oui,
donc,
bien
merci,
sûr.
Merci de ta participation à cette émission.
Et alors, on a Léa Protet-Baumer qui va aussi jouer avec nous. Donc là, Léa est une de mes anciennes élèves qui a décidé de faire ce métier. Et je l'avais déjà engagée dans La Fène éternelle pour une petite apparition qui était filmée. Et là, on se retrouve. Donc, on est très heureuses toutes les deux. Et donc, c'est elle qui jouera Marquise. Et puis, on a retrouvé aussi un comédien qui s'appelle René Carton, qui, alors lui, est belge comme Laurent, et connaît Laurent depuis ses jeunes années, donc c'est un peu le copain qu'on retrouve. Et puis il y a Maxime Feuton, qui travaille aussi avec nous, qui était dans toute la trilogie sur la garde 14, qui était sur Le Bourgeois Gentilhomme. Enfin, voilà, donc c'est vraiment à la fois encore une histoire de famille, plus deux jeunes recrues, mais avec Léa, que je connais depuis qu'elle a 17 ans. Donc je trouve ça extraordinaire aussi de voir, de transmettre, parce que c'est ça aussi que faisait la troupe. En fait, ils transmettaient, et puis un jour, voilà, les rôles devenaient de plus en plus importants. Donc ça, c'est la petite histoire des comédiens dans la grande histoire de la Madeleine de Molière.
Donc j'ai vu que ça se déroulait en trois actes, hein, c'est ça?
C'est ça, en trois actes. Il y a vraiment un acte, le premier acte, qui est toute la partie donc, du départ, on va dire, dans le Languedoc, pour fuir un petit peu la fronde, pour fuir tout ce qui se passe, parce que bon, bah, Modène a dû fuir le pays, on a peur que du coup, avec Armande, on sache qui elle est, ça s'est pas bien passé avec l'illustre théâtre, il y a la banqueroute. Donc en fait, Molière et Madeleine rencontrent Charles Dufresne, qui donc lui est aidé par le duc d'Épernon dans le Languedoc, donc on décide de partir dans le Languedoc. Et puis dans le Languedoc, il y avait ce qu'on appelle les états généraux, qui se déroulait à Pézenas. Mmh. Donc à un moment, on décide d'aller à Pézenas pour rencontrer le prince Conti, pour jouer devant le prince Conti. Le prince Conti qui était au collège de Clermont chez les Jésuites, en même temps que Molière. Donc en fait, Molière était en dernière année quand il aidait Conti à faire du théâtre. Parce que chez les Jésuites, dans l'éducation, on faisait de la musique, on faisait de la danse, on faisait du théâtre. Ça faisait partie du cursus. Tout le monde faisait du théâtre à cette époque-là. Et donc, Conti connaît Jean-Baptiste. Et donc là, il le retrouve. Et il y a une amitié très forte, avec un amour très fort développé du théâtre chez ces deux-là. Et donc, quand il amène toute la troupe et que le prince Conti dit « Banco », là, ça ouvre des possibilités énormes. Et puis après, il est rattrapé par... parce qu'il aurait dû rentrer dans les ordres, chose qu'il n'a pas faite. Et donc, je pense que certaines personnes essaient de le ramener à quelque chose de plus strict, de plus... Donc, il va commencer à être plus proche de ces gens de la compagnie du Saint-Sacrement, de ses dévots, de ses faux dévots. Et puis, ça va commencer à aller moins bien. Donc, il faut partir. Donc, il commence à remonter dans le nord. Et là, ils arrivent à Lyon parce que, comme le père donc, est tapissier, et le père, il a des comptoirs, donc il y a de l'argent. Et donc, il y a effectivement Paris, mais il y a aussi Lyon, où il y a de l'argent. Donc, Molière, il passe beaucoup de temps.
Et puis, tout ce qui est... tapisserie, Lyon,
exactement.
Tout ça, c'est un...
Et, bah oui, les soyeux de Lyon.
Soyeux,
et en plus, Lyon n'a pas été frappé par les problèmes de la fronde.
Voilà.
Donc à Lyon, on est encore totalement libre.
C'est une zone libre.
C'est une zone libre. Donc voilà, pourquoi Lyon? Et puis on rencontre Marquise à Lyon. Et puis, alors il y a un personnage aussi très important, c'est l'abbé de Connac, qui était très proche du prince Conti. Et l'abbé de Connac est très influent à la cour. Oh, à mon avis, il a un peu fricoté avec Marquise. Donc, il essaye de faire en sorte que monsieur, frère du roi, reçoive la troupe. Donc, on décide de remonter d'abord en passant par Rouen. Alors ça, donc toute la première partie, tout ce dont je vous parle, ça, c'est le premier acte. On rencontre Corneille à Rouen.
Oui, ça fait beaucoup parler pour le moment, cette rencontre avec Corneille.
Oui, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. avec cette hypothèse que ce serait Corneille qui aurait écrit les pièces de Molière.
C'est pas impossible qu'ils aient écrit ensemble.
Peut-être, mais sincèrement...
Mais je ne pense pas que ça veuille dire que Corneille a écrit toutes les grandes comédies
sincèrement,
qui ont suivi.
Je ne pense pas. Enfin, bon, en tout cas...
Oui, il y a une polémique actuellement.
Il y a une polémique, mais voilà. Quand on voit à quel point Corneille, après, a désavoué Molière et ne l'a pas apprécié...
Ça sera le sujet de notre prochaine émission, alors, voilà.
Oui, oui.
Si Corneille a écrit pour Molière.
Ah, mais on en parle beaucoup, tu sais.
Oui, on en parle beaucoup.
Enfin, moment, c'est un...
À mon avis, non. Mais bon. Bon, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui avait pris un ordinateur, qui avait rentré dans son ordinateur tous les vers de Corneille, tous les vers de Molière, et qui regardait au niveau de la musicalité, et qui disait « Non, c'est faux !» Alors, si la technique a dit... Hein.
Non, mais voilà. Molière reste Molière, que soit ce voyage, cette rencontre, ça c'est évident.
Oui. Et donc tout l'acte 2 ensuite, eh bien, c'est ce fameux retour à Paris avec la rencontre avec Louis XIV, parce que c'est un même capital. Ouais. Et Louis XIV décide d'aider monsieur, donc son frère, à avoir sa troupe. Donc il y a l'installation au théâtre du Petit Bourbon. Et puis donc on suit toute leur aventure avec tout ce qui se passe aussi avec tous ces personnages et ces comédiens qui... Alors il y avait ce qu'on appelait tous les mois d'avril, en fait, on changeait. C'est-à-dire que le théâtre, les théâtres fermaient pendant un mois, je crois. C'était au mois d'avril, au moment du carême, au moment de Pâques. Oui. On fermait. Et là, il y avait des changements de troupes. Un peu comme les joueurs de foot. Tu sais, il y a un moment après la saison.
C'est le mercato.
Donc là, à Paris, il y avait le théâtre du Marais et il y avait le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Avec Montfleury, avec tous ces gens très connus et qui, eux, ne jouaient que du Corneille, ne jouaient que des grands textes. Et donc, il y avait un mépris de ces gens-là pour Molière. Et Molière, le roi lui a dit, écoutez, il y a quelque chose qui me fait un peu penser au théâtre italien, donc vous irez au théâtre du Petit Bourbon, parce que le théâtre du Petit Bourbon, c'est là qu'il y avait les Italiens. Et puis, petit à petit, Molière a commencé à vraiment écrire des pièces qui ont plu énormément au public. Et puis surtout, il y avait ce lien très beau avec Louis XIV, puisque comme il était tous les jours au lever du roi, en tant que tapissier, donc ils avaient un lien très fort. Et c'est pour ça qu'en fait, Louis XIV a toujours protégé Molière, même quand il y a eu toutes ces cabales. Alors, il ne pouvait pas non plus aller contre maman, parce que la reine-mère, c'était quelque chose. Mais...
Maman.
Maman. Mais il a soutenu, vraiment. Et donc, tout ça, on le montre dans l'acte 2, et puis avec les années qui passent. Et l'acte 3, c'est vraiment toutes les grandes pièces. Le Misanthrope, le Don Juan, le Tartuffe. Pourquoi il les a écrits? Comment il a essayé de prouver qu'il était un homme de foi, parce que Molière était un homme de foi. Et même si on lui a dit que parce qu'il attaquait dans le Tartuffe les dévots, en fait, non, il attaquait les faux dévots, il attaquait l'hypocrisie, parce qu'il n'a jamais supporté l'hypocrisie. C'est pour ça qu'après, il a fait ce Don Juan, qui est le roi des hypocrites. C'est pour ça qu'il y a eu le Misanthrope, où il souffrait tant. Mais d'ailleurs, je peux Allez, 4 vers du Misanthrope. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, nous voulions fuir un gouffre où triomphaient les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est la liberté.
C'est beau.
Quand même beau.
C'est beau, ouais.
C'est tout Molière.
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est dans une comédie.
Oui, oui.
Alors que ce sont des vers d'une tragédie
mais extraordinaire. Mais c'est ça, la force, pour moi,
force, voilà.
Du théâtre de Molière. C'est des drames humains.
Voilà. Oui.
Et sa force, son génie, c'est qu'on en rit.
Oui.
Mais Alceste, c'est un personnage extraordinaire. Alceste, c'est le personnage du misanthrope. Et il a raison sur toute la ligne.
Bien sûr.
Et quand il a la première scène où il est avec son ami, la Philaminte, et où il est odieux avec Philaminte, parce que Philaminte a osé dire des choses « Oh, formidable !» à quelqu'un en fait, qu'il ne connaît pas. Et Alceste lui dit « Mais comment tu peux dire à ces gens ?» tant de choses alors que tu les connais pas. Et ça le rend fou. L'hypocrisie le rend fou.
Il le traite de faux cul, quoi.
Exactement.
Voilà, quoi.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est insupportable, l'hypocrisie, on est bien d'accord.
Oui.
Et en ce moment...
Ah ouais, on est à bonne école en ce moment. Hein.
Je pense que Molière se retourne dans sa tombe.
Hélène, ça te prend combien de temps pour mettre ce spectacle en place, là, parce que...
Écoute, j'ai commencé à l'écriture en novembre l'année dernière. J'ai travaillé jusqu'au mois de février. On a commencé les premières répétitions en mars, avril, mai. On a fait un petit teaser pour essayer comme ça voilà, de faire connaître le spectacle. On a repris une session de répétition au mois d'octobre parce que c'est vraiment un luxe de pouvoir avoir du temps pour que les choses travaillent d'elles-mêmes. Mmh. Et puis on s'est remis en répétition là, en janvier. Et là voilà, c'est les dernières. Mais ça nous permet, si tu veux, d'être déjà tellement nos personnages, de tellement savoir quand on vient au plateau qui on est, ce qu'on joue, les interactions entre les uns et les autres, que là, du coup, ça nous permet de vraiment faire monter le soufflet, comme on dit.
Donc c'est Laurent le premier lecteur, premier spectateur, c'est ça?
Souvent, oui.
Oui.
Ben oui.
C'est lui qui te...
Ben, je lui fais lire, ouais. Et puis il a un œil très, très juste, donc quand il me dit, ah, là, bon, je me remets à l'écriture. Et puis, on a filmé les répétitions d'octobre et j'ai laissé passer tout le mois de novembre. J'ai regardé en décembre et il y avait des choses qui n'allaient pas encore. Je n'étais pas satisfaite. Il y avait des choses que moi, j'avais en tête, mais en fait, je ne les avais pas dites. Et je me suis dit, bah, si, il faut les dire. Entre, justement, les interactions entre tous les personnages. De toute façon, voilà, le théâtre, c'est vraiment sans cesse en amélioration, un spectacle.
Et quand tu proposes ça à tes camarades... Ouais. Donc, ils lisent avant, comment ça se passe? Il y a un petit processus ou...
Bah, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'on travaille. Enfin, la plupart d'entre eux, ça fait déjà plus de 11 ans qu'on travaille ensemble.
Bien, ouais.
Donc, si tu veux, quand je leur dis, bon, j'écris sur Molière, waouh, cool, bon, toi, je te vois là-dedans, ouais, d'accord.
Et,
mais c'est merveilleux parce que j'ai confiance en eux, je sais exactement là où je peux les emmener, ils ont confiance en moi et ça, c'est merveilleux. C'est ça, la troupe.
Oui.
Et puis les petits nouveaux qui arrivent, et ben, ils ont l'air satisfaits d'être là. Et moi, je suis très contente de cette distribution.
Voilà. Ils sont tous pros?
Ah, bien sûr.
Ouais, ouais.
Ah, bah, tu peux pas. Enfin, je veux dire, c'est un investissement incroyable. Et je pense qu'il faut que tous qu'on ait déjà bouffé de la scène pour pouvoir être libre. Tu peux pas être libre sur un plateau si c'est pas ton métier pour pouvoir monter des choses aussi costauds, parce que c'est quand même costaud, Molière. Hein.
André, on rentre un petit peu plus dans le détail de comment réserver, parce que là, on est en période où on peut appeler, donc on appelle directement la MJC, Secteur Culture, hein, voilà.
Oui, c'est ça, je crois qu'on peut réserver en ligne aussi.
J'ai noté un téléphone, en ligne aussi, voilà. Ouais. Je crois qu'on a tous les renseignements sur la petite affiche que je t'ai laissée, André. Voilà, regarde, elle doit être quelque part. Elle est là, voilà. Ah. Donc, je crois que tu as le téléphone ou comment réserver aussi.
Alors,
puisqu'il est encore temps de réserver.
Bien sûr. On vous attend.
J'ai tout, mais je ne sais pas dans quel
ordre. C'est de l'autre côté.
Voilà. Bah oui, si tu ne regardes pas la bonne pièce, ça ne va pas aller.
Oui, mais tu me diras, c'est le même numéro, parce que c'est dans le même lieu.
Donc c'est le 03 44 39 63 18 hein, pour appeler, pour directement réserver.
Ouais.
Et après, je pense qu'il n'y a pas plus d'infos.
Mais normalement, il y a un site, je crois.
Je pense qu'il faut appeler directement.
On peut réserver en ligne,
le centre culturel MJC, directement, voilà. Où on peut réserver, voilà. Après, il y a un tarif pour les adhérents, un tarif pour les non-adhérents, voilà.
Voilà.
Un tarif normal, il est à 15 euros. Et le tarif réduit, est à 10 euros.
Voilà, pour deux heures de spectacle.
Deux heures. Ah oui, c'est 2 heures quand même. Ouais.
Oui. Deux heures, c'est généreux, quoi.
Oui. 8 au plateau, des costumes somptueux, un décor merveilleux, une très belle musique. Voilà.
Bref,
une belle lumière, Camille Aveline qui travaille comme régisseur à la MJC, qui nous a aidé à créer la lumière. Ça aussi, c'est un moment magique. Le moment où, en fait, on commence à réfléchir. Parce que la lumière, c'est capital. Ça donne un sens. C'est-à-dire, quand on veut aller en profondeur dans l'intimité d'un personnage ou d'une situation, il faut que la lumière, elle vienne vous envelopper, elle vienne mettre en relief ce qui se joue.
Ah, donc, c'est important dans les répétitions qu'il soit là pour mettre les lumières.
C'est essentiel, c'est capital, bien sûr. Après, il est régisseur pour envoyer les effets, mais il y a un rôle de créateur avec nous et c'est beau.
La générale, la costumière, tout est prévu?
La générale, c'est lundi.
Lundi, d'accord.
La costumière, on va dire qu'on l'a fait aujourd'hui parce que Lionel a assisté à la représentation. On aime bien, il a un bon regard. Et puis c'est pareil, voilà, il connaît...
Il a une formation de comédien aussi, je crois.
Oh, il a d'animateur, oui, parce qu'il a travaillé à la Mer de Sable pendant des années.
Ah oui, animateur.
Il a ça dans le sang. Et puis, il a créé la plupart des lumières de tous nos spectacles quand il était encore régisseur. Donc,
Il va voir souvent des spectacles. Il va à Avignon,
évidemment.
Est-ce que vous allez à l'Avignon cette année ou pas, là?
Écoute, on aimerait bien, mais un spectacle de 2 heures, ça pose un gros problème pour Avignon, parce que les créneaux sont de 2 heures, et alors jouer un spectacle avec la mise en place, enlever, ça coûte une fortune, parce que là, ça veut dire qu'il faut avoir 2 créneaux. Donc là, là... Mais peut-être nous trouverons un mécène.
Oui, donc, les scènes sont quand même multiples à Avignon.
Oui. Mais ça coûte très cher d'aller au Festival d'Avignon.
Il y a très longtemps que je ne suis pas allé.
C'est magique, hein, c'est magique. Quand on est spectateur, c'est magique. Mmh. Quand on est comédien, c'est plus difficile parce que c'est merveilleux, mais il faut avoir les reins financiers très solides. Mmh. On a déjà fait 3 fois Avignon, on est content.
Hein. Ah oui, c'est bien.
J'espère qu'un jour, voilà. Mais là, il faudra peut-être vraiment trouver un mécène. Mmh.
Le spectacle, tu comptes le faire vivre longtemps, cette pièce de théâtre ?
Oh, tu sais, quand on crée un spectacle, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est dans la boîte. Et puis après, une fois qu'il est créé, c'est très facile pour des comédiens de le reprendre parce que le texte reste. Et donc après, il suffit d'une ou deux répétitions et puis c'est reparti. Oui. Donc là, je sais qu'on est... Voilà, il y a des pistes dans le Languedoc, il y a des pistes dans le Nord, il y a des pistes. Bon, il n'y a rien de signé, mais il y a des pistes et puis... J'y travaille.
Dans la région, il n'y a que Crépy pour le moment.
Pour l'instant, oui. Plessis-Belleville aussi, mais avec tout ce qui se passe, on a un petit peu reculé dans le temps parce que c'est un peu compliqué, là. Mais voilà.
D'accord.
Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que le spectacle a lieu. Déjà, ça,
le spectacle a lieu. Ouais. Nous avons 7 représentations. On va toucher beaucoup, beaucoup de jeunes. Et ça, moi, j'en suis très heureuse et très fière aussi parce que, voilà, tout un travail qui se fait avec les professeurs de français. Et puis, c'est beau aussi, ça, parce que moi, j'ai certaines élèves comme ça que j'ai rencontrées en cours avec des profs quand j'essayais de leur faire comprendre comment on part d'un texte qui paraît tellement plat et puis tout d'un coup, on le met en relief et on lui donne vie. Et ils viennent voir les spectacles après. Et parfois, je les retrouve, qui viennent comme spectateurs à la MJC et qui me disent « Ah !» Ou alors, par exemple, Corentin, avec qui j'ai fait l'avant-dernière musique, qui me dit « Mais tu sais que moi, je vous ai vu dans la leçon d'UNESCO quand j'étais au lycée. J'étais tellement heureuse d'enfin travailler avec vous. » Voilà, c'est ça aussi qui est magnifique, c'est cette filiation, c'est cette transmission. Et ça, je sais que Lionel, c'est quelque chose qu'il adore et c'est ce qu'il porte à la MJC.
C'est-à-dire tes interventions auprès des élèves, c'est de jouer en même temps.
C'est de leur faire comprendre en tant que metteur en scène comment on donne de la vie à un texte.
D'accord.
Parce que le théâtre, c'est fait pour être représenté. Mmh. Et c'est très compliqué quand on étudie le théâtre au lycée.
Moi, j'ai étudié de façon littéraire.
C'est très, très difficile.
C'était rasoir.
Et là, par exemple, ce qui est génial, c'est que maintenant, il y a vraiment le grand oral où ils travaillent sur des textes et cette continuité avec les profs là, depuis une quinzaine d'années. Ce qui fait que là, par exemple, la dernière fois que j'y suis allée, on travaillait sur des textes de Rabelais. On a travaillé vraiment sur... Rabelais, c'est pareil, c'est truculent.
Ah bah ça,
et tout d'un coup, quand on leur dit que c'est comme du cinéma et qu'il faut vraiment y aller et que ces gros mots, il faut qu'ils pètent, et là, ils disent « Mais on peut faire ça, madame ?» Je dis « Mais oui, on peut faire ça. Et si vous mettez cette truculence dans la lecture, mais là, vous avez votre moyenne au la main.
Malheureusement, l'émission se termine. On aurait pu continuer encore très longtemps. Hein. Hélène, un message pour les auditeurs ?
Venez nombreux. Oh. Si vous aimez Molière, je vous promets que vous allez vraiment vous régaler.
Et si vous voulez le découvrir aussi.
On peut aussi découvrir Molière.
Oui, c'est ça.
Et on te revoit quand à la radio ? Parce que je me rappelle des petits souvenirs où tu faisais des cours de théâtre à l'antenne.
Les ateliers
qui étaient magnifiques, les ateliers d'Hélène. On a hâte de te retrouver. Hein.
J'ai accouché de mon Molière. J'ai écrit sur La Fontaine. Allez, je crois que là, je vais enfin pouvoir souffler et revenir avec joie.
Ah. Eh bien, on t'accueille avec grand plaisir. Merci André et Luc d'avoir participé à cette émission.
Merci
Hélène Lorca. On rappelle le spectacle, donc le samedi 29 janvier à 20h30 et le dimanche 30 janvier à 16h, La Madeleine de Molière, d'Hélène Lorca par la Compagnie de la Fortune.
Voilà.
Mesdames et messieurs, c'est ce qu'il vous reste à faire. Rediffusion de l'émission le dimanche à 16h, le mardi à... Allez, personne ne sait. 10h.
Alors, sur scène, ça s'appelle un trou de mémoire. Oui, et en général, on paye sa bouteille derrière.
Eh ben, d'accord, ok. Non, je le faisais un petit peu exprès pour les taquiner et voir s'ils suivaient un petit peu l'émission. Bon. À bientôt sur les ondes de RVM.
Allez, on va aller boire.
Au revoir.
Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.